Métro, boulot, gynéco.
Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF. Pour ce nouvel épisode du micro des gynécos, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Gabriel Karl, gynécologue obstétricien récemment retraité ayant consacré l'ensemble de sa carrière au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Aux côtés de Léa, il nous partage son expérience du saturnisme pendant la grossesse.
Bonjour docteur Karl, merci de participer à notre chaîne du micro des gynécos pour nous présenter aujourd'hui une pathologie qu'on appelle le saturnisme, qui est une intoxication par le plomb qui peut être particulièrement dangereuse pour la santé des enfants et des femmes enceintes. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous rappeler le risque et surtout le seuil de toxicité en cas d'intoxication par le plomb?
Oui, le saturnisme, donc, c'est donc une intoxication par le plomb. Et depuis 2015, le seuil est fixé à 50 microgrammes par litre. Auparavant, c'était 100. C'est en fait un seuil de déclaration chez l'enfant. Mais les effets toxiques n'ont pas de seuil. Les effets toxiques, en effet, ont été démontrés pour la présence de plomb, même à des taux plus faibles. C'est en effet un métaux lourd particulièrement toxique, notamment, comme vous l'avez dit, chez les enfants, chez la femme enceinte et son fœtus. En effet, les effets du plomb sur la santé, chez l'enfant, on a bien démontré qu'il y a des diminutions des performances cognitives et sensorimotrices, avec des baisses de QI qui sont définitives, également des baisses de l'audition. Chez la femme enceinte, donc non seulement le plomb traverse le placenta, mais chez la femme enceinte, ça va entraîner donc une augmentation du taux d'hypertension artérielle gravidique, du taux de prééclampsie, une augmentation du taux d'avortement, d'accouchement prématuré, de PAG, et tout ça, c'est proportionnel au taux de plomb. Par exemple, on a pu démontrer qu'une augmentation de 10 microgrammes par litre de plomb entraînait une perte de poids du fœtus de 15 grammes. Donc tout ça, c'est linéaire. Le plomb, donc, il est stocké dans les os de la femme enceinte, et il a tendance à être relargué dans le sang pendant la grossesse, parce qu'il y a quand même une déminéralisation qui existe. Et cette contamination, donc, ça se fait par voie aérienne, par inhalation et par voie digestive.
Comment on prévient donc une intoxication au plomb?
Alors, en effet, le saturnisme, c'est surtout une maladie de la pauvreté. Il touche surtout les populations précaires, les populations mal logées, notamment les logements dans lesquels il y a des peintures au plomb, des canalisations au plomb, les patients qui vivent dans un environnement insalubre, près de déchets. C'est donc une maladie, en effet, qui touche le plus souvent les gens les plus pauvres. Donc, les recommandations qu'on peut faire de prévention, c'est si possible améliorer l'habitat. Deuxièmement, on n'y pense pas, c'est le tabac. Les fumées de tabac contiennent du plomb. C'est la non-utilisation de cosmétiques traditionnels. Une chose que personne, les gens ne savent pas, c'est que une grande partie des gens qui sont intoxiqués au plomb, notamment en métropole, sont des gens qui sont intoxiqués avec le kohl, qui sert de cosmétique. Également, c'est des peintures au plomb qu'on peut trouver sur des vaisselles artisanales. Et donc, éviter les ustensiles de cuisine ou les vaisselles artisanales, comme des théières artisanales ou des poteries peintes dans lesquelles on met des aliments et qui libèrent du plomb. Éviter également la géophagie. Vous savez que dans beaucoup de populations d'origine africaine, mais également haïtienne, antillo-guyanaise, il y a une habitude pendant la grossesse de manger de la terre. Cette terre, elle est particulière. C'est en général une argile de type kaolin. Et cette argile est riche non seulement en plomb, mais également en d'autres métaux lourds, comme l'aluminium, qui lui aussi est très toxique pour le fœtus. C'est aussi le lavage régulier des mains. C'est favoriser les aliments riches en fer et en calcium, parce que c'est important de savoir que le fer et le calcium sont des chélateurs de l'absorption du plomb au niveau digestif, ils vont donc diminuer cette absorption. Et puis, c'est le cas dans les pays africains, et c'est également le cas chez nous en Guyane, on a fait des études là-dessus, que c'est le manioc qui est particulièrement riche en plomb, qui a l'air de concentrer du plomb qu'on peut trouver au niveau de la terre. Et donc, on a une relation linéaire entre la consommation de manioc et ses dérivés et le taux de plomb.
Et alors, comment on est amené à dépister les patientes à risque de saturnisme?
Mais d'abord, il faut avant tout y penser, parce que c'est quelque chose auquel peu de gens pensent. Le saturnisme, on a l'impression que c'est une maladie qui a disparu depuis la non-commercialisation des sens sans plan. En fait, elle continue. Et comme on l'a dit, c'est le dépistage qui doit être très large, notamment pour les populations défavorisées, notamment les migrants, les gens qui ont un habitat insalubre, un environnement malsain. Et c'est une recommandation de la HAS qui demande de faire ce dépistage et ce type de population. Quant aux symptômes du saturnisme, ils sont en effet peu spécifiques, c'est pour ça qu'on n'y pense pas. C'est d'abord une asthénie, des douleurs abdominales, comme des coliques de plomb dans les formes sévères, une hypertension artérielle débutante, la constipation, également des troubles du sommeil, des céphalées. Et puis j'insiste aussi sur l'anémie, parce que c'est un piège, quelquefois on n'arrive pas à trouver la cause des anémies, et en fait il faut penser au saturnisme. Également interroger les patientes, savoir si elles sont géophages, si elles mangent de l'argile, pour essayer de l'éviter. Les interroger pour savoir si elles utilisent des médicaments traditionnels, qui parfois peuvent utiliser des composés qui contiennent du plomb. Si elles utilisent des cosmétiques traditionnels. Et éventuellement, quelle est leur consommation de manioc, dont on l'a dit qu'il peut être un facteur de risque. Ce dépistage, il se fait par dosage du plomb dans le sang. Comme on l'a dit, un taux de supérieur à 50 microgrammes par litre. Et c'est le seuil de déclaration, mais c'est un seuil de déclaration chez l'enfant, pas chez la femme enceinte. Mais à partir de ce seuil, si c'est supérieur à 50 microgrammes par litre, ça nécessitera une surveillance, un traitement et puis un suivi du nouveau-né.
Est-ce qu'on peut détailler un petit peu, en fonction des seuils de plombémie maternelle, la prise en charge qui peut être proposée ?
Voilà, donc dans ces populations à risque, le principal, c'est de faire un dosage de plomb, si possible dès le premier trimestre. Si le taux est inférieur à 50 microgrammes par litre, on ne fait rien de particulier. Si ce taux est entre 50 et 100, ben, il faut instituer une supplémentation en calcium, 1 ou 2 grammes par jour, plus du fer, qui, comme on l'a dit, vont diminuer l'absorption du flanc. C'est un traitement, s'il est bien suivi, qui est quand même efficace et qui va diminuer l'élévation systématique du plomb pendant la grossesse, comme on l'a dit tout à l'heure, à cause de la déminéralisation, qui peut diminuer donc cette plombémie. À la naissance, on peut programmer un dosage du plomb au cordon ou un peu plus tard chez le nouveau-né. Et si le taux est supérieur à 50 microgrammes par litre chez le nouveau-né, c'est une déclaration obligatoire. Donc, la déclaration est obligatoire, pas pour la femme enceinte, mais pour l'enfant. Donc, il y a un formulaire CERFA 12-378 spécifique qui va déclencher à ce moment-là une enquête de l'ARS qui pourra aller à domicile de la patiente, de la mère, pour voir un petit peu quels sont les facteurs de risque. Et il faudra également, si le taux pendant cette grossesse est supérieur à 50 grammes par litre, bien entendu, faire des recommandations de prévention, comme on l'a dit, pendant la grossesse, et après l'accouchement, un suivi de l'enfant. Si le taux sont entre 100 et 350, donc bien entendu, il faut supplémenter en calcium et en fer. Il faut faire un contrôle au troisième mois de la grossesse pour savoir si ces taux de plomb n'atteignent pas des seuils encore plus élevés. Et puis, bien entendu, faire un dépistage néonatal et instituer un suivi de l'enfant par le pédiatre. Pour des taux plus élevés au-delà de 450, il faut à ce moment-là discuter une hospitalisation parce qu'il y a des traitements chélateurs du plomb qui sont efficaces, qu'ils soient en comprimé ou en perfusion, et qui donc peuvent être institués à la demande de spécialistes de la question. Autre chose, le plomb passe allègrement au niveau du lait maternel, et donc on pourra discuter si l'allaitement maternel doit être continué ou pas. En général, il est autorisé jusqu'à des taux de 200 microgrammes par litre.
Merci beaucoup, Dr. Karl, pour ce message très clair et qui permet de mettre en avant cette pathologie auquel on ne pense pas beaucoup. En Guyane, vous étiez confronté à quel pourcentage de saturnisme ?
En Guyane, en raison de ce que je vous avais dit, notamment à cause de l'ingestion de manioc, l'utilisation d'ustensiles de cuisine traditionnels qui contiennent du plomb, dans l'étude qu'on a faite en Guyane, qu'on a publiée, on est à 26% de patientes qui ont un taux supérieur au seuil de déclaration, ce qui est très important. Donc ça veut dire que tout ça aura des conséquences sur les quotients intellectuels des enfants à naître, tout simplement.
Et c'est une cause traitable et réversible, donc c'est intéressant et important de la dépister et de la traiter.
Voilà, donc le message le plus important, c'est y penser. Y penser dès qu'on a des signes un peu spécifiques dès qu'on a des patients en situation de pauvreté ou également si on a des facteurs de risque, on peut essayer de découvrir à l'interrogatoire.
Et la plombémie, elle peut se faire à n'importe quel moment de la journée, le dosage
Oui, n'importe quand. Donc de préférence au premier trimestre, de façon à instituer éventuellement des moyens, comme on l'a dit, de chélation pour la suite de la grossesse.
Très bien, merci beaucoup Dr Karl pour cet épisode.
Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.